et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Au sommaire aujourd'hui, un premier roman poignant qui raconte les conséquences du génocide sur une famille au Rwanda. Beata Umubyeyi-Meres évoque l'un des pires drames de notre histoire avec une écriture poétique. Il est de retour avec un récit sur un thème triste et sensible. Jean-Louis Fournier fait un nouveau point sur les drames de sa vie et évoque cette fois sa solitude. Avec son ami intime Pierre Desproges, sa femme adorée, ses enfants handicapés, tous disparus. Tous loin de lui. Et pourtant, il réussit à jouer avec l'humour. Bonjour Jean-Louis Fournier.
Bonjour.
Comment allez-vous,
Emmanuel? Oui, ça va.
Oui, on est étonné de lire autant de solitude pour un homme connu comme vous, auteur à succès, qui n'a pas été épargné par la vie, certes, mais on se dit que vous avez plein de monde autour de vous pour vous soutenir.
Oui, mais j'ai plein de monde, mais je n'ai pas toujours ceux dont j'ai envie.
Ah oui.
Et quelquefois, j'en ai trop autour aussi.
Parce
Le problème, si vous voulez, entre multitude et solitude, c'est compliqué. Parce que finalement, quand je suis tout seul, j'ai envie d'avoir les autres. Quand je suis au milieu des autres, j'ai envie d'être tout seul. C'est ce que c'est compliqué, un être humain.
Ouais, la solitude, c'est compliqué. On la redoute et parfois, on en veut.
Enfin, c'est compliqué, c'est formidable aussi. C'est
la pire.
Regardez un moine, comme il a l'air heureux.
Ça dépend lesquels. Hein. Bon, on en parlera ensemble.
Non, c'est en gros quand même.
On verra ensemble. On va parler de solitude avec vous, Jean-Louis Fournier. La solitude qui s'allège parfois par la musique. Le grand artiste martiniquais Gérald Toto, comparse de Richard Bona et de Lokua Kanza, sort un nouvel EP, un mini-album de 4 titres avec une chanson en créole qu'il jouera dans notre studio. Et puis, il sera question de la beauté, ou plutôt de la mocheté, avec une BD de presque 200 pages qui décrypte les souffrances d'une jeune femme écartée par la société en raison de son apparence physique. François Bégaudeau et Cécile Guillard signent tous les deux un ouvrage réaliste et délicat.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous. Pour le Canada aujourd'hui, c'est le retour de Jérémy Lagniel, la libraire à Montréal, dans la librairie Pauline. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez changé de librairie, dites donc.
Bien sûr.
Comment ça, bien sûr?
Ben, je me suis rapproché de chez moi.
Bon, on salue la librairie Pauline. Où est-ce qu'elle se situe, cette librairie?
Elle est dans le magnifique quartier de Rosemont, sur la rue Masson. Librairie, vraiment, une magnifique librairie avec un très beau fond littéraire.
Très bien, on en parlera avec vous donc à l'occasion. En France, Sophie Todescato n'a pas changé de librairie. Elle est toujours dans la librairie Les Temps Modernes à Orléans. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Un coup de gueule ou un coup de cœur tout à l'heure?
Ça sera la surprise.
Ça sera la surprise. Bonjour Dominique Bressoux.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Et on va se faire un petit coup de cœur, hein, pour commencer tout de suite maintenant, là. Allez hop.
Oui, allez hop. Alors, un coup de cœur jeunesse, c'est-à-dire c'est le livre « Regarde, elle parle » de Sandrine Meuchler et un collectif d'auteurs aux éditions Joie de lire. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il n'est pas toujours facile de faire partager aux enfants l'intérêt qu'on peut avoir à visiter un musée. Et ce petit livre, c'est un vrai bijou pour les enfants dès 8 ans. À l'occasion de l'ouverture du nouveau musée cantonal de Lausanne, la parole a été donnée à 15 œuvres, mais elles-mêmes, qu'elles soient abstraites, figuratives, qu'il s'agisse de statues, de peintures. Alors c'est plein d'humour, c'est une véritable petite histoire à chaque fois, et ça donne un autre regard sur les œuvres, même pour les plus grands.
C'est une très belle idée, c'est aux éditions La Joie de lire. Il faut inciter les enfants à aller au musée, même si c'est pas facile. Je sais de quoi je parle, quand j'étais gamin, c'était... Mais il y a plein de choses à voir. Vous avez raison. Merci Dominique. Bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique, vous, dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe, et vous êtes énervé avec un coup de gueule qui concerne le rayon bande dessinée. Vous avez détesté la BD de François Bégaudeau. Non, je plaisante. Allez-y.
Non, ce n'est pas ça du tout, mais un petit coup de gueule quand même. Oui. Un petit coup de gueule sur certains lecteurs qui, en librairie, par leur mou boudeuse parfois, prouvent qu'ils n'ont pas encore réalisé combien le secteur de la bande dessinée s'est tellement élargi cette dernière décennie. Donc en fait, une BD, ok, elle a des dessins, mais ses textes peuvent être assez longs, ses scénarios élaborés, sans parler des essais sous forme de BD, notamment historiques, ou encore des romans graphiques. Donc ne vous méprenez pas, lecteur, la palette est vraiment large en images, il y en a pour tous les goûts.
Exactement, et la preuve tout de suite. Et bonjour François Bigaudeau.
Bonjour.
Bonjour Cécile Guillard.
Bonjour.
Vous publiez tous les deux une bande dessinée aux allures de roman graphique justement. Une vie de moche parue chez Marabout Hachette Livre. C'est l'histoire de Guylaine qui se trouve moche à partir du jour où un groupe d'amis lui dit « on ne joue pas avec la moche ». Et sur 200 pages, on accompagne sa vie traumatisée par cette phrase d'enfant. Ce statut de moche va encombrer toute son existence en fait.
Oui. On peut dire ça. Non, oui, le pari du récit, je peux en parler parce que c'est moi qui ai lancé le récit.
Oui,
C'était de remonter sur une cinquantaine d'années, quoi. Depuis, ce qu'on peut appeler ce traumatisme originel, en tout cas, ce jugement social qui est porté sur elle par des enfants.
Mmh.
Des enfants qui, effectivement, comme vous venez de le dire, la traitent de moche. Et tout de suite, d'ailleurs, la discriminent en tant que telle, puisqu'elle ne pourra pas jouer au foot parce qu'elle est moche.
Quoi. Et c'est ça.
Ce qui fait partie des décrets un peu injustes de l'enfance. Et elle traîne ça comme un boulet, effectivement. Alors, est-ce qu'elle est moche, objectivement ou pas? C'est très secondaire de le savoir. Elle, en tout cas, visiblement, d'autres l'ont nommée comme telle. Et donc, elle intériorise ce stigmate.
Cécile, vous l'avez aidé, François, pour le scénario ou pas?
Non.
Alors c'est incroyable, c'est incroyable François, parce que c'est vous qui avez signé ce scénario et c'est subtil et délicat, comme si vous aviez vécu cette adolescence féminine, comme si c'était votre histoire de femme. Or, vous n'êtes pas une femme.
Non, j'ai été une femme à une époque, mais j'ai changé parce que beaucoup trop de discrimination. Non, mais bon, je crois que c'est toujours un peu le travail du romancier de se mettre un peu à la place d'eux.
Ouais.
Hein, sinon, on ne fait que des livres sur soi-même.
Mais c'est troublant, là.
Ouais, après, je pense qu'on puise dans, sans doute, des observations qu'on a pu faire. Moi,
j'ai
des souvenirs comme ça de jeunes femmes, jeunes filles qui se trouvaient disgracieuses ou en tout cas étaient nommées comme telles. Et donc, bon, je me suis servi de ces souvenirs. Et puis, je pense qu'on peut aussi aller puiser dans un vivier qui est en chacun de nous, à savoir le vivier de toutes nos humiliations, parce qu'on en a tous eu. Moi, je veux dire, moi, je pense au cours de gymnastique, par exemple, où je me sentais extrêmement handicapé. Et quand on me demandait de faire une roue et je savais pas la faire, je sentais sur moi le poids de l'humiliation sociale. Donc je pense qu'on en a tous comme ça. Il faut aller puiser là-dedans.
Mais chez les hommes aussi, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous vous concentrez sur le mal-être des femmes. Mais chez les hommes aussi, c'est le cas. Chez les ados, il y a cette souffrance, parfois, d'être trop maigre, d'être trop gros. Et ça peut nous suivre toute notre vie. Ça, encore plus aujourd'hui avec la démocratisation des salles de sport et le culte de l'homme sportif et musclé, comme vous, François.
Ouais, même si je pense qu'il y a pas symétrie forcément entre les genres de ce point de vue-là. Je pense que l'injonction faite aux femmes à la beauté est beaucoup plus intense dans la société. Et donc je pense qu'en retour, les femmes le vivent plus mal. Je parle de généralité qui souffrirait plein d'exceptions. Hein. Mais c'est vrai que je pense que les adolescents, je pense que si on faisait un sondage comme ça devant 100 adolescents, auprès de 100 adolescents, je suis sûr que 98 sur 100 vous diraient que quelque part, ils se sentent pas bien dans leur peau le nez est trop gros, pas assez grand, pas assez ceci, pas assez cela. Donc je pense que l'expérience de la gêne physique, elle est hyper universelle.
Cécile Guillard, alors cette dictature de la beauté, elle est flagrante selon votre bande dessinée à partir des années 80. Dans la pub en particulier, tout semble réservé aux belles, même un frigo, vous l'illustrez très bien ça.
Au final, oui, on a une place seulement si on est belle et justement si on a envie d'être représentée et d'être vue par tous. Mais l'idée, c'est justement d'explorer quelle est la place pour ceux qui ne correspondent pas au cliché ou justement au modèle et à cette didacte qui est imposée depuis le plus jeune âge. Ouais.
Elle a le sentiment d'avoir été punie.
Elle a le sentiment d'avoir été punie et de ne pas faire partie de cette classe qui est acceptée, qui doit être vue et qui doit finalement être représentée et voilà, visible par tous. Et donc au contraire, elle doit se cacher, se dissimuler et elle va se punir elle-même.
Bon, on va aller voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de cette bande dessinée. Il y en a deux qui ont lu ce livre, le Canada et la Suisse. On va commencer par Jérémy Laniel, qui est un homme intransigeant à Montréal. Allez-y Jérémy.
C'est un projet qui est aussi bon qu'il l'était intriguant à prime abord. Hein. Une BD de Bigaudeau, une BDiste dont on ne connaissait rien du trait, et c'est une magnifique découverte. Par la bande d'un sujet un peu plus sérieux, on va le dire quand même. Et si le scénariste fait habilement passer un mauvais quart d'heure à notre pauvre Guylaine, bien la dessinatrice lui donne tout l'amour du monde dans un trait vraiment souple et fin. C'est une très très belle découverte.
C'est vrai que le dessin est très réussi. En Suisse, Dominique Bressou, êtes-vous d'accord?
Alors moi je suis très très partagée sur cette BD parce que je trouve que le sujet encore actuel est beaucoup plus dramatique qu'il paraît être au premier abord et que l'accumulation des clichés offre une distanciation un peu trop pratique au lecteur qui l'empêche d'y croire, comme le harcèlement scolaire par exemple. Et puis il n'y a rien à faire, j'ai vraiment eu l'impression que Guylaine se faisait plus d'illusions sur son humour que sur sa supposée laideur. Mais les illustrations sont splendides et reflètent très bien l'atmosphère de cette fille devenue femme.
Bon, c'est vrai qu'elle joue avec l'humour, François Bigaudeau, parce qu'elle dit « quand on est moche, il nous reste que l'humour ».
Vous jouez avec ça aussi dans la BD. Ouais.
Bah, c'est le fameux coup. Il faut toujours trouver une place sociale, quoi, dans les bandes, dans les groupes, dans les collectifs qui se constituent à l'école ou ailleurs. Et on connaît bien ce qui est presque un sociotype. C'est la fille qui se trouve moche et qui donc va jouer sur d'autres atouts. Et par exemple, la drôlerie, la clownerie. Mmh. En plus, c'est vrai que Guylaine a cette force-là parce qu'elle retourne un peu sa laideur en force. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de capital physique à préserver. Et donc, elle peut s'enlaidir par la clownerie. La clownerie peut être l'issue pour celle qui se trouve moche, donc c'est ce qu'elle fait. Donc j'ai pas bien compris cette idée de qu'elle se représentait comme drôle ou pas. En fait, elle l'est, de fait. Ouais, elle fait la clown, elle fait la conne, on peut dire comme ça.
Mmh. Elle joue avec les clichés aussi, mais c'est elle qui joue avec les clichés. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de clichés que ça. Non,
bah, moi non plus, donc j'aurais bien
aimé. C'est vous qui avez fait le scénario.
J'aurais bien aimé avoir un exemple de venu de Suisse.
Bah, allez-y, Dominique, un exemple vite fait, si vous avez. Vous savez comment est François Bégaudeau, hein, il lâche rien. Allez-y.
Non, moi non plus, mais en l'occurrence, par exemple, qu'une femme se tourne vers les lesbiennes parce qu'elle ne trouve pas de mec, ah, là, oui. Pour moi, ça, c'est vraiment le cliché. Ça.
Non, elle fait un essai, elle teste, oui.
Oui, mais c'est pas bon. Si je peux me permettre, c'est pas comme ça que j'ai. Le parcours de Guylaine n'a pas de valeur universelle, ça n'engage qu'elle. Je dis pas que n'importe quelle femme qui trouverait pas d'homme se tournerait vers les lesbiennes. C'est pas du tout ça que je veux dire. En revanche, j'avais envie de faire droit à ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout le scénario s'est construit comme. Bah, cette femme a un empêchement et elle essaie de trouver des issues. Bon, bah, ça fait partie d'une expérimentation qu'elle va avoir, qui d'ailleurs va tourner court.
Comment vous l'avez vécu, ça, Cécile Guillard, de dessiner ce passage dont parlent Dominique et François?
Moi, au final, j'ai trouvé ça, enfin, je dirais pas jouissif quand même, mais quelque part, justement, assez libérateur, parce que ça lui permet quand même de laisser parler son corps aussi, et plus ses pulsions et ses émotions. Parce qu'au final, tout le long de l'album, on peut dire qu'elle assiste à sa propre vie. Elle est donc très seule et assez impuissante. En tout cas, elle va lutter contre ça et elle va trouver une force dans plein de tentatives. Voilà.
Et elle se trouve seule, c'est surtout ça. Donc elle cherche des contacts, elle cherche à nouer des relations. Cette question de la beauté est directement liée à la solitude. C'est un livre sur la solitude, en fait, Cécile.
Oui, c'est vrai. Ben, d'autant plus que le récit est énormément introspectif et qu'elle réfléchit énormément sur elle-même. Elle va rester seule une grande partie de sa vie, oui.
Surtout quand on est considéré comme étant moche, ça isole.
Ça isole et ça empêche d'aller voir les autres. Oui.
Ça vous fait rire, Jean-Louis, parce que vous dites, vous, j'en ai marre d'être vieux. En plus, plus on est vieux, plus on est moche dans votre récit sur la solitude. Parce que
vous savez à quoi on s'aperçoit qu'on est vieux, c'est quand même bronzé, on reste moche. Ça a été...
C'est ce que vous écrivez.
Oui, c'est à la fin des vacances qu'on se dit, ça y est.
Mais non.
Un petit peu quand même.
Ah ouais. Oui. Bon, c'est vrai que les beaux ont tendance à se mettre ensemble, à s'associer, François.
Oui, c'est pas aussi évident que ça, vous croyez?
De quoi?
Ben, ils ont peur de la concurrence. Les beaux, ils préfèrent au contraire être avec des moins beaux.
Eh ben non, ben c'est pas ce que dit la BD de François.
Alors, en tout cas, en termes de couple, je pense qu'effectivement, chacun peut vérifier dans la rue que les couples sont en général, je dis bien en général, esthétiquement homogène. En revanche, effectivement, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, Jean-Louis, mais à un moment, Guylaine va s'atteler à une belle. Et donc, le fameux couple belle-moche, on le connaît bien à l'adolescence. Ah, oui. C'est la belle qui s'accompagne d'un laidron, parce qu'elle trouve un laidron, pour pouvoir justement briller à ses côtés. Et puis, évidemment, le laidron pense que la belle lui donnera accès à certains espaces, qui est d'ailleurs le cas de Guylaine. Enfin, par exemple, elle peut aller en boîte, parce qu'elle a comme le laissez-passer que vous accorde la compagnie d'une belle.
Et il y a un espoir, Jean-Louis Fournier, François Bégaudeau et Cécile Guillard, c'est la vieillesse. Vous racontez que à la vieillesse, au vieillissement, finalement, on rééquilibre la notion de beauté. Ceux qui ont été plus beaux que nous à 18 ans ne le sont généralement pas 30 ou 40 ans plus tard. Et c'est vrai, c'est facile à vérifier, ça.
Ouais, moi, je pense que la vieillesse peut être la revanche des moches. Ouais. Non, mais ça, je le tire de pas mal de témoignages. En fait, j'étais un peu étonné que pas mal de mes amis femmes de plus de 50 ans, je dirais, me disaient souvent qu'elles se sentaient plus apaisées maintenant qu'avant. Alors, ça me mettait quand même dans un drôle d'état. Je disais, mais c'est pas possible, en fait. Plus on vieillit, plus on va vers la mort, c'est triste, c'est pas bien. Et elles me disaient, mais je te jure, je suis beaucoup plus apaisée maintenant. Et
chez les hommes, surtout.
J'ai entendu deux ou trois fois, comme ça, ces amis femmes me dire, mais tu sais, finalement, la compétition physique a tendance à s'atténuer au-delà d'un certain âge, parce que c'est vrai que le dépérissement du corps auquel on est tous exposés finit par homogénéiser un peu les physiques et rendre donc moins ingrat la gratitude. Quoi.
Cécile Guillard, vous vous sentez comment, vous? Belle ou moche?
Ah, je veux rester hors de... Ouais, en abstraction,
hors, <du débat.
rire> hors de ces termes, oui. Non, pour moi, justement, l'intérêt aussi de cet album, c'est de poser la question, la beauté ou la laideur, au final, tout ça n'existait pas. Est-ce que c'est pas le regard
des
sur
autres.
Elle, voilà. Au final, comment est-ce qu'elle grandit avec cette idée-là? Mais c'est l'image que les autres lui renvoient, et c'est au final, est-ce que tout ça n'est pas juste une fable ?
Dans les années 80, vous étiez comment, François Bégodeau ? Parce que vous avez beaucoup abordé cette période-là. Vous avez beaucoup parlé de vous de façon indirecte. Vous étiez comment, physiquement ? Vous vous sentiez comment ?
C'est-à-dire, oui, effectivement, par exemple, le personnage de La Blessure la Vraie, qui avait 15 ans et qui me ressemblait à cette époque-là.
Voilà, je pense à ça.
Bon, en fait, on ne savait même pas, d'ailleurs, en lisant le livre, s'il était beau ou moche, mais en tout cas, lui, se sentait pas très dégourdi, quoi. C'est-à-dire, il était tout à fait empêché sexuellement, très inhibé par l'autre sexe. Mais je crois que c'est une expérience, hélas, assez universelle.
Et quoi. Vous, alors, François, du coup?
C'était ça, à l'adolescence. J'avais vraiment l'impression que j'arriverais jamais à séduire qui que ce soit. Enfin, mais encore une fois, je pense qu'on est beau. Puis après, il y a certains éléments qui nous donnent un peu de gage. Par exemple, on rencontre une femme qui a l'air de pas trop nous trouver laid. Ouais, il y en a même une autre qui nous trouve drôle. Il y en a une troisième qui nous trouve intelligent.
Et c'est parti. Arrêtez
et là. Et là, on pense qu'on est Zinedine Zidane, quoi, clairement. Et d'où mégalomanie, arrogance.
Bon, merci Cécile Guillard. Merci François Bégodeau. Vous allez rester avec nous, bien sûr. Une vie de moche est parue chez Marabulle, collection BD de Marabout. Dans un instant, une histoire personnelle racontée par Jean-Louis Fournier et le récit très émouvant de l'après-génocide au Rwanda avec Beata Omubiei-Meres. Avant cela, voici le chanteur Johan Papa Constantino. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Pourquoi chérie tu cries ? Pourquoi ma chérie tu cries ? Pourquoi chérie tu cries ? Hier comme aujourd'hui, que tu gardes un mousquisis, relis la moutole. Tu croyais que je m'en foutais, toi que je regardais pour moi. Après que j'ai vu pour toi, toi tu m'as dit ça. Tu es en love, mon bébé, mais là je vais voir ailleurs.
C'était Johan Papa Constantino avec Pourquoi tu cries ?
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Chaque semaine, une histoire, une anecdote racontée par l'un de nos invités. Jean-Louis Fournier, on parlera de votre nouveau roman-récit sur la solitude tout à l'heure. Mais avant, on vous a chargé de cette lourde mission, celle de nous raconter une histoire personnelle.
Quand j'étais jeune, quand je préparais l'Institut des hautes études cinématographiques, j'ai rencontré à la faculté une fille très très belle, et dont je suis tombé éperdument amoureux. J'ai appris que son père avait une ferme, et seulement il voulait céder sa ferme, mais il ne trouvait personne. Et j'ai dit à la fille, je vais reprendre la ferme. Je n'étais pas du tout cultivateur. Elle m'a dit, mais tu sais pas, je lui ai dit, je vais apprendre. Et je me suis retrouvé, j'ai laissé tout tomber, je me suis retrouvé dans les yeux de 70 bêtes à cornes, avec 200 hectares, n'ayant jamais été cultivateur. Et puis j'ai commencé à labourer. Et je faisais du zèle parce que je voulais que le père se dise, tiens, ma fille est tombée sur un type bien. Et on labourait la nuit là-bas parce que enfin, pas la nuit entièrement, on labourait le soir parce que c'était dans le nord et il pleuvait souvent et donc fallait profiter. Donc, bon. Et un jour, il m'a dit, tiens, est-ce que tu peux labourer ce soir? Et j'ai labouré toute la nuit. Tellement j'étais pris d'une fièvre laboureuse.
Et donc?
Toute la nuit. Et je suis rentré à 6 heures du matin dans le coma, je me suis affaissé et tout d'un coup, on a tapé à ma porte. 5 minutes après, c'était le père qui m'a dit, qu'est-ce que t'as foutu? J'ai senti que j'ai, dans le coma, je me suis habillé. Il m'a dit, viens avec moi. On est sorti, on a été dans les champs, le jour se levait, et j'ai vu le champ. Il ressemblait à une coiffure afro-africaine, là, avec énormément de raies partout. J'avais tout le champ était en zigzag, tout ça, il avait les larmes aux yeux. Moi, j'avais envie de rire, mais bon.
Vous avez massacré le champ.
Le
quoi.
Champ s'est appelé après le champ frisé. Il a été complètement un truc dont je commençais mal dans la.
Et vous êtes fait virer.
Ben, j'ai quand même gardé la
par
fille.
Par la fille.
J'ai pas ça. Eu la ferme. J'ai la fille.
Bon, à tout à l'heure, Jean-Louis Fournier.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Beata Omoubié-Imérès.
Bonjour.
Tous les enfants dispersés, votre premier roman, il évoque l'après-génocide, les ravages sur 3 générations d'une famille. Vous êtes né au Rwanda en 1979, vous arrivez en France en 1994, rescapé, échappé du massacre des Tutsis. Comme Blanche, votre personnage?
Oui, il y a des points communs avec Blanche, mais je tiens à préciser que ce n'est pas de l'autofiction, c'était vraiment des personnages que j'ai créés et bien évidemment je me suis inspirée de certains.
Il y a beaucoup d'accointances en tout cas.
Il y en a certaines.
Ouais. Il y a ce silence en tout cas tout au long de votre livre, le silence de la mère de Blanche qui s'est cachée pendant 3 mois dans la cave d'une librairie, protégée par un ancien libraire à la retraite, qui a sans doute, comme vous l'écrivez, comme de nombreux Hutus d'ailleurs, caché des proches Tutsis et tué en même temps des inconnus de la même communauté. Et c'est ça tout le délire finalement de ce génocide. Ce mélange total parce que il y a eu des familles mixtes, il y en a eu plein. Et pourtant, on a tué quand même.
Oui, mais c'est pas tout noir, tout blanc, dans le sens où, de toute façon, ce qu'on ne sait pas en plus, c'est que Hutu et Tutsi ne sont pas des ethnies, au sens où les Hutu et les Tutsi ont la même langue, la même culture, la même religion, et que ça a été des constructions, notamment à l'époque coloniale, de dire que c'était des ethnies différentes. Mais oui, il y a des gens qui ont tué et qui ont caché en même temps, ça n'empêche pas que ça puisse... être une réalité aujourd'hui dans le Rwanda où les gens, les survivants, vivent côte à côte avec leurs bourreaux ou les familles de leurs bourreaux et essayent de faire payer et essayent de vivre ensemble.
C'est-à-dire qu'il faut, non pas pardonner, mais essayer de comprendre, c'est ça que vous dites aujourd'hui?
Je trouve que la question du pardon que l'on pose souvent aux survivantes et aux survivants est parfois violente, voire indécente, c'est-à-dire... si on demande à une personne qui presse le survivant de témoigner, si vous, on avait tué, massacré toute votre famille devant vous, si on vous avait violé à l'âge de 13 ans et si on avait rasé tous vos proches, est-ce que vous pardonneriez? Je me dis souvent que les gens qui posent avec une telle insistance la question du pardon étaient dans ce rôle-là, ils se rendraient compte de la violence de ça. Néanmoins, le pays peut se baser sur cette idée de réconciliation nationale. On répare un pays, comme disent mes personnages. Réparer les cœurs, c'est une autre histoire,
c'est ça,
et c'est là où la littérature peut intervenir, puisque là où les mots ont manqué, la littérature met une parole pour retisser des liens et retisser l'histoire d'une famille.
1 million de morts en 100 jours, la Shoah n'a pas servi de leçon. Hein. En ce moment même, au Kivu, d'autres massacres sont en cours, du même acabit, avec des mutilations extrêmes de femmes et d'enfants. On en parlait ici même avec le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Oui. Ce qui est incroyable à chaque fois, ce sont les appels à chasser une catégorie d'hommes. Car c'est une chasse. Au Rwanda, c'est à la radio que l'on appelle au massacre.
Où que vous soyez, venez combattre ici à Kigali. C'est là que la guerre est plus intense. C'est là que les Inkontani se lèchent les babines en disant « On aimerait bien voir la capitale du pays des Hutus, mais on ne va pas le leur donner. Nous nous y entretuerons. » J'aimerais dire bonjour aux jeunes qui sont près de l'abattoir. Hier, je les ai trouvés en train de danser le zouk. Ils avaient même abattu un petit cochon. J'aimerais vous dire que Ah, ce que vous m'avez donné à fumer, ça a eu un mauvais effet sur moi. J'ai tiré 3 bouffées. Et c'est fort, mais il paraît que ça vous donne courage, vraiment. Alors gardez bien le caniveau pour que demain aucun cafard n'y passe. Que les fournisseurs vous en approvisionnent en quantité pour que vous soyez dur, que vous soyez enragé et que nous puissions combattre pour notre ville, pour notre pays, chers frères. Alors bon courage, restez à l'écoute de RTLM, il est 12h02.
Voilà. C'est cet appel à la radio, en fait, qui va motiver les troupes, certaines troupes, qui vont s'engager dans un conflit, qui vont défendre, qui vont cacher, comme on l'a vu, et puis certains vont fuir. Et Blanche, dans votre livre, est née d'un père français et d'une mère tutsi. Et c'est ça qui va la sauver. Sa mère lui dit, lors de son départ, « Oublie ma langue, là où tu vas, elle ne sera rien d'autre qu'un poids inutile. »
Oui. C'est un roman qui parle beaucoup de, des langues, la langue maternelle qui est le Kinyarwanda, qui est la langue qui est parlée par toutes les Rwandaises et tous les Rwandais. C'est important de le dire aussi, qui est présente pendant dans toute l'histoire, dans le roman. Sa mère aurait voulu qu'elle soit plus blanche que Blanche. Elle lui a donné ce prénom, elle a épousé un Français, elle veut qu'elle devienne blanche et qu'elle la sauve quelque part de la maudition de cette couleur noire. Malgré tout, Blanche aura appris le Kinyarwanda et au moment où le génocide commence, sa mère la confie au convoi des Blancs qui quittent le pays, les Occidentaux qui nous ont abandonnés à notre sort, et lui dit « Va et deviens plus blanche que Blanche, continue à parler ce français que tu as appris
et
ici. »
Et deviens française.
Et deviens française et c'est, va, vis et sauve-toi là-bas en France.
On a du mal à comprendre aujourd'hui, Beata, la situation au Rwanda. Parce qu'à vous entendre et à entendre de nombreux témoignages d'ailleurs, on se dit que la réconciliation est difficile, que finalement il faut, on l'a dit tout à l'heure, non pas accepter mais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Sauf que ce qui s'est passé, quand on fait un pas de côté, en tout cas de vue de l'extérieur, hein, je suis d'accord, mais c'est inacceptable. Ces massacres-là, ils sont inacceptables.
Ils sont inacceptables, ils étaient inacceptables, et pourtant...
Et tout le monde a baigné là-dedans, quasiment tout le monde.
C'est le sentiment de solitude absolue qu'ont les rescapés, et pas seulement ceux du génocide des Tutsis du Rwanda, je pense à tout ce que j'ai lu des survivants de la Shoah. C'est le sentiment d'abandon du reste de l'humanité. Et la spécificité de ce génocide, c'est qu'il s'est passé au milieu des années 90, à la fin du XXe siècle, en direct pratiquement à la télé, et que le monde entier a... laisser faire.
C'est ça. C'est ce qui se passe au Kivu en ce moment. On ne fait rien. C'est la même chose.
Oui. Et encore, enfin, je veux dire, on va pas parler de toutes les situations. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ma situation? C'est de dire, si le monde entier a laissé faire, s'il y a eu ces yeux grands fermés sur notre situation, maintenant, nous racontons les histoires. Moi, je passe par la fiction, d'autres passent par le témoignage. Mais pour que, au moins, on soit entendu et que ce lien d'humanité soit de nouveau tissé.
Et qui a le droit d'écrire? On va aborder ce sujet juste après nos libraires, parce que vous l'évoquez ce sujet-là aussi. 3 libraires qui ont lu votre premier roman, Beata Omoubié-Imérès, La France, la Suisse et la Belgique. On va commencer par la France, Sophie Todescato.
Oui, c'est très très bien. C'est très bien dans l'écriture, c'est très bien aussi dans la construction, avec ces 3 voix qui sont toutes très justes et qui distribuent de manière très très fluide et très très vivante tous les thèmes du livre, l'héritage, la famille dispersée. Un peu comme s'ils étaient cousus, comme des motifs dans une tapisserie ou dans un tissu, en tout cas de manière très belle et très éloquente.
Dominique Bressou, pour la Suisse, quel est votre avis?
Alors pour moi, ce livre, c'était un vrai choc, hein. Celui de l'histoire, bien sûr, mais aussi un choc pour l'écriture, parce que chaque mot, chaque phrase a été choisi, ciselé et atteint son but. C'est une absolue merveille, et en refermant ce livre, on a l'impression d'avoir compris beaucoup plus que les douleurs et les bonheurs qu'il raconte.
Merci beaucoup, Dominique. On va aller en Belgique, Nathalie Clairin?
Oui, c'est un livre d'une beauté extraordinaire. Vous dites l'indicible pour une famille et chaque page est un cadeau. Il nous fait voir la force de la filiation à travers ces identités piétinées. Et vous le faites avec le juste ton, le plus approprié pour un témoignage en pudeur. Vous avez une langue si poétique, si riche. Moi, j'ai envie de faire une comparaison. Votre livre, c'est comme un bourgeon qui s'ouvre quand le printemps est revenu pour donner la plus belle fleur de votre village de Butard.
Merci.
Voilà, l'avis de nos libraires, Béata.
Oui, je vous remercie de votre lecture et je tiens vraiment à préciser que, effectivement, on a entendu cette voix terrible de la RTLM, la radio-télévision des Mille Collines, la radio Machette. Mm-hmm. Mais c'est avant tout un roman sur la transmission et sur comment, dans une famille, les personnages, de la mère, de la grand-mère à la mère et de la mère au petit-fils, parviennent à trouver des mots baumes pour se reconstruire et regarder l'avenir de façon sereine. Voilà, et c'est aussi un roman sur le métissage, ça je pense que c'est très important de
Alors le métissage, oui, parce que votre personnage, elle vit un peu à la frontière, elle dit habiter une frontière.
Comme
elle
tous les métisses.
Voilà, elle a une place ambiguë dans ce monde, avoir une identité métisse, c'est avoir une place ambiguë, c'est ce que vous expliquez, ça mériterait un débat d'une bonne demi-heure. Le compagnon de Blanche, lui, est un écrivain martiniquais. Il porte son identité comme un étendard, comme ça. Et quand il entend cette histoire de la mère de Blanche, il a envie de l'écrire. Sauf que Blanche va lui dire « Laisse-la tranquille, tu voudrais capturer son âme, en faire un produit, te parer de sa souffrance pour briller en société. » Sous-entendu, ce n'est pas à toi d'écrire cette histoire-là. Pourtant, vous le savez, Beata, de nombreux auteurs ont écrit sur le Rwanda sans avoir les origines rwandaises, sans avoir même vécu le génocide. Il n'y a que des personnes comme vous qui ont le droit d'écrire sur le sujet.
Absolument pas. Et c'est bien la différence. C'est un roman, c'est pas moi qui pense ça. C'est le personnage de Blanche. Je pense que comme pour la Shoah, comme pour d'autres événements de l'histoire, c'est un crime contre l'humanité. Donc ça concerne toute l'humanité. Tout le monde peut s'en saisir. La seule question pour moi qui est importante, c'est de dire d'où l'on parle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant dans la santé communautaire, dans le féminisme, et d'avoir l'honnêteté de dire. Voilà, moi je ne suis pas survivante, je suis rwandaise, je ne suis pas survivante, je suis rwandaise, je suis survivante, je ne suis pas rwandaise, mais cette histoire me concerne et donc la justesse du ton qu'on va employer va dépendre de l'honnêteté qu'on va avoir à dire d'où l'on parle par rapport à cette histoire.
Donc qu'est-ce que ça veut dire au final ?
Mais ça veut dire que c'est une histoire qui va encore être racontée, j'espère qu'il y aura encore des témoignages, encore des romans, encore de la fiction.
Des témoignages ou de la fiction par des auteurs ou des essayistes qui n'ont rien à voir avec l'histoire.
Moi, le choix de la fiction, par exemple, à la fois ça me protège, mais c'est aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens pour qui c'était trop dur de lire un témoignage. La fiction met une distance, permet aussi à des gens dont ce n'est pas l'histoire de vraiment rentrer dans l'histoire, elle devient leur, et à ce moment-là, on peut les prendre par la main et leur faire saisir toute la dureté, mais aussi tout l'espoir que peuvent porter les rescapés.
Bon, merci beaucoup Beata Omoubié-Imérès. Merci beaucoup d'être venue dans la librairie francophone. Tous les enfants dispersés, c'est votre premier roman et c'est un livre paru chez Autrement, un ouvrage qui a séduit tous nos libraires. Merci à vous Beata. Dans un instant, on va parler du récit sur la solitude signé Jean-Louis Fournier. Et voici pour l'instant Gérald Toto. Il est installé pour un titre acoustique inédit à la radio. L'Athénois, c'est le titre, installé avec sa belle guitare. Il est en place, chemise à carreaux, tout va bien pour vous. Vous êtes prêts ?
Oui.
Allons-y avec Gérald Toto dans les studios de la librairie francophone.
Et si nous les rivets, nous n'y paroles qu'on saute. Attends l'humanité, toute nomme c'est nomme, toute nomme mérite respect. On les la terre, la terre, la terre nous va. On les l'homme, l'homme, l'homme nous va. Thank you.
C'était Gérald Toto avec l'Athénoua. Vous pouvez applaudir, bien sûr, dans ce studio. Merci beaucoup, Gérald. Venez nous rejoindre. Merci à vous.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
RTBF, la première.
France Inter.
Gérald, vous êtes né en métropole de parents martiniquais et vous dites « La Martinique, c'est mon essence, c'est ce qui me construit ».
Aussi.
C'est ce qu'on a entendu là aujourd'hui,
oui.
Parce que cette chanson est en créole. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elle dit cette chanson-là ? Je sais qu'elle évoque le respect des communautés et de la nature.
En fait, en gros, pour moi, la terre, on la préservera, pour nous, je veux dire, que si on s'associe, que si on ne s'efface pas les uns les autres. En fait, le génie humain, il est bien partagé. Et je trouve que c'est une meurtrissure à chaque fois pour moi, et c'est un suicide qui dit pas son nom, que d'effacer telle ou telle culture, si modeste soit-elle en nom, quelquefois. Et c'est pour ça que quelle étrange résonance avec ce qui vient d'être évoqué.
Oui, parce qu'il y a un personnage qui est martiniquais, qui cite Aimé Césaire d'ailleurs,
ouais.
et qui parle d'identité aussi.
Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que en fait, les populations antillaises, et quand je dis antillaises, je parle de toutes les Antilles, les grandes Antilles évidemment, sont des populations métisses. Donc ces frontières-là, justement, et ces tensions intercommunautaires, on les vit, et ça fait même partie intrinsèque de notre ADN. Je dis toujours que nous sommes obligés d'être des gardiens des clés, de comprendre comment fonctionne l'homme pour pouvoir converser avec lui et pour pouvoir cheminer dans la vie.
C'est une place ambiguë d'être métisse, vous êtes d'accord avec ce que disait Beata Omobiei-Merès ?
Ambiguë dans le regard de l'autre, parce que ça va, moi je sais exactement où je suis, je suis bien avec mes racines, d'où qu'elles viennent, c'est-à-dire que aussi bien bretonne que...
Martiniquaise, ghanéenne.
Ça remonte assez loin en fait.
Vous remontez très loin. Ce sont vos oncles, hein, Gérald Toto, qui vous font découvrir les musiques afro-caribéennes, les musiques africaines aussi. Vous avez travaillé ensuite avec Faudel sur son premier album. Tout ça vous a préparé à une fusion des musiques et des influences à venir.
Oui. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que on peut jamais présumer, présager ce qui va nous arriver, mais à chaque fois, un jour construit l'autre, et justement, j'adore les rencontres pour ça, parce qu'elles me nourrissent, et elles nourrissent les rencontres à venir. Ouais. Donc ça, je suis très friand des rencontres.
Et cela devient la symbiose, avec Richard Bona du Cameroun, et Loco Kwanza de RDC, il y a eu ça.
C'est au moins qu'attendre. Tout de côté ça.
Quelle réussite cet album-là, ces deux albums avec eux. C'est l'aboutissement pour vous, ça.
En tout cas, il y a avant et après, quoi. C'est clairement. Ce sont deux génies de la musique. Ils sont extraordinaires, ce sont des artistes extraordinaires.
Vous en êtes un aussi pour eux, vous savez ça.
Moi, en tout cas, la seule chose qui m'apportait, c'est d'être au rendez-vous de ces rencontres-là. Je savais que c'était quelque chose d'important.
Bon, l'album s'appelle Toto Bona Lokwa. Il y en a deux. Là, il y a un nouvel EP, parce que vous faites une carrière en solo aussi. Ce disque, le nouvel EP, évoque l'automne, les couleurs de l'automne. Et vous dites un peu que c'est une métaphore du métissage, les couleurs de l'automne. Les couleurs qui se croisent, qui se mélangent parfois. C'est un peu ça. Ça vous réconforte, ça ?
Moi, j'adore l'automne.
C'est vrai ?
Mais parce que j'aime bien les transitions, en fait. C'est comme aussi, j'aime bien le passage du jour à la nuit, et de la nuit au jour. Il y a quelque chose de bouleversant, en fait, à chaque fois, dans les transitions. C'est-à-dire que, pour moi, ce sont des renaissances à venir, quoi. Enfin, je suis un peu un contemplatif, c'est pour ça.
Bon, vous allez contempler avec nous la suite de cette émission, d'accord ?
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Gérald Toto. Votre EP4 titre à l'automne est disponible en CD sur les plateformes d'écoute et de téléchargement en ligne.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires, deuxième partie, on est très en retard. Jérémy Laniel, je compte sur vous au Canada. Coup de gueule ou coup de cœur ?
Ben, coup de cœur, Emmanuel, c'est assez simple. Il s'agit d'une des meilleures BD que j'ai lues dans les 10 dernières années. Ça s'intitule « Jour d'attente » de Thomas Delaunier-Brousseau et de Simon Leclerc. C'est publié à la Pastèque. On suit un homme qui ne veut pas aller à la Deuxième Guerre mondiale, se terre en forêt, vous imaginez cette forêt canadienne. Et là, tout d'un coup, l'isolement, le temps passe. Et là, le réel semble basculer. On se met à avoir d'inquiétantes visions. C'est étrange. La proposition graphique est radicale, magnifique, à lire absolument.
Merci. Jour d'attente aux éditions La Pastèque. Sophie Todescatou, en France, un coup de gueule.
Oui, j'ai lu Les Quatre Coins du Cœur. Alors, je vais vous faire ça très court. Écoutez, c'est raté. C'est le roman inédit de François Sagan qui paraît chez Plon.
Formidable.
Alors, en principe, formidable. Mais là, pas du tout. Tout ce qui faisait empreinte dans les romans de Sagan, la mélancolie, l'ironie, la précision de l'écriture, tout ça, on ne trouve pas. Il y a les décors, il y a l'ambiance, il y a les personnages, mais il ne se passe rien. Tout est réuni, mais ça reste plat, ça reste cliché, c'est raté.
Il fallait éviter.
Bah oui.
Et Jean-Luc Fournier a l'air d'accord à côté de vous.
En plus, Jean-Marc Roberts, mon éditeur, avait racheté tous les œuvres de Sagan, et il n'y avait qu'un bouquin qu'il avait mis de côté.
C'était celui-là.
Il y avait une bonne raison.
Bon, Jean-Luc Fournier, justement, avec Je ne suis pas seul à être seul, vous auriez pu écrire un livre plaintif, plat aussi, comme celui de Sagan, mais comme toujours avec vous, c'est fin et parfois drôle. Le paradoxe de la solitude, vous dites, c'est qu'elle est à la fois recherchée et redoutée.
Si vous voulez, j'essaie toujours de faire des livres qui soient gris-rose, qui soient gais et tristes, qui soient toujours les choses comme la vie, finalement, faire rire, faire pleurer. Et la solitude, ça peut être une chose formidable aussi. Actuellement, on utilise beaucoup, on parle de la solitude avec du violoncelle et des sanglots dans la voix, les gens qui sont tout seuls et tout ça, mais quand on est dans un embouteillage, on rêve de la solitude. On est dans des endroits actuellement, on peut plus aller à Venise, maintenant il y a un péage, on peut plus aller au Mont-Saint-Michel et tout ça, et là la solitude ça devient un cadeau du ciel.
Oui, c'est-à-dire que plus ça va, plus on est nombreux d'ailleurs.
On est trop.
Et on devrait pas être seul au final.
Non, mais
comment vous l'expliquez ça?
Ben, on est au contraire très seul au milieu de tout ça, puis ces espèces de faux semblants, de liaisons avec tout le monde, tous ces gens qui ont des germes de pommes de terre qui leur sortent des oreilles.
Les casques, c'est ça?
Pour se relier, ben oui, ils ont des espèces de trucs blancs, là, des filaments tous, là, j'ai vu dans le métro, ils se relient à quoi? Non, c'est une illusion totale.
Est-ce que vous en voulez à ceux qui vous ont laissé sur le carreau, Jean-Louis Fournier? Je pense à votre épouse décédée d'un cancer.
J'en veux beaucoup aux gens qui meurent, enfants. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils me laissent tomber.
Et ils sont tous morts, en fait,
autour de vous. Et je leur en veux, parce que...
Depuis Pierre Desproges, ils sont tous partis.
Ils m'ont abandonné, ils ont manqué de savoir-vivre. Ben oui, ouais. Et c'est pas gentil, parce que c'est vrai, c'est de l'amour en moins, si vous voulez. Ouais. Quelqu'un qui vous aime, qui meurt, c'est de l'amour, on est moins aimé. Et si, moi je crois beaucoup à ça, je leur en veux énormément. Et je trouve que c'est pas très marrant d'être un survivant. D'être le survivant d'un couple, c'est pas très marrant, c'est pas le beau rôle. Mais en même temps, je me console. Pour ma femme, je dis au moins toi, t'aurais pas été veuve. T'as évité ça. Et moi, maintenant, je me tape c'est moi le veuf.
Et votre ami intime, Pierre Desproges, avec qui vous avez construit ce tandem professionnel incroyable, il disait de vous, Jean-Louis est un fou chiffonné, cerné d'angoisses existentielles, pour qui tout allait bien, jusqu'à ce jour maudit où il est né.
C'est génial cette phrase. En plus, c'est quelque chose d'étonnant, c'est que quand je suis né, mon père était médecin et je ne respirais pas. Et donc mon père m'a pris comme on prend un lapin, vous savez, parlez pas, puis il m'a foutu des coups pour que je reprenne le goût de vivre. Ça veut dire que déjà, j'avais une inquiétude, je retenais ma respiration parce que je m'attendais au pire. Et le pire d'ailleurs, ma vie est quand même, aura été passionnante, malgré tout.
Vous la regrettez pas? Cette vie-là.
Ah non. D'ailleurs, sur la tombe de ma femme, j'ai fait mettre un truc. D'ailleurs, parce que c'est ma tombe, c'est ma résidence tertiaire. J'ai ma place qui est là. Elle m'attend d'ailleurs avec impatience, peut-être.
Et vous êtes impatient, vous ?
Finalement, nous ne regretterons pas d'être venus.
Vous êtes impatient ?
Impatient de la
du grand départ, oui.
J'ai en même temps une trouille bleue. J'ai aussi peur de vivre que peur de mourir. Ça, c'est un vrai problème.
C'est compliqué.
Je sais pas quoi choisir.
Bon, les trois libraires ont lu votre livre, Jean-Louis Fournier. La France, la Belgique et le Canada. Par qui commence-t-on, Jean-Louis? Choisissez.
Canada.
Allez-y. Jérémy Laniel.
Je me souviens pas si je l'ai dit à cette antenne, mais depuis Où on va papa, je dévore chaque nouveauté de Jean-Louis Fournier avec un plaisir à peine voilé. Même chose ici, je retrouve la concision, l'adresse dans le ton, le sens de la formule que j'adore chez cet auteur. De sorte, comme un magicien, chez lui, le quotidien devient sublime et Je ne suis pas seul à être seul ne fait absolument pas exception.
Magnifique. Sophie Todescatou, en France, êtes-vous d'accord?
Oui, moi j'ai bien aimé la forme du livre, le découpage en petites scènes qui s'enchaînent et puis cette façon de décrire qui ressemble à un trait de dessinateur. Mais on est de mon point de vue, plutôt du côté de Chaval que du côté de Sempé. C'est-à-dire, c'est acide, c'est même assez cruel, et même s'il y a des choses très drôles, de l'humour, des bons mots, eh ben, le lecteur est contaminé un peu par votre humeur cafardeuse.
Ah, Jean-Louis.
Ah ben oui, mais c'est moi, je veux pas faire un breuvage, comment dire, qui soit douxâtre.
C'est parfaitement réussi.
Parce que j'adore le jus de citron. Mm-hmm. Je trouve ça. Je préfère ça au sirop d'orgeat.
On est d'accord.
Ah bah oui, c'est immonde le sirop d'orgeat.
Oui, je préfère franchement le citron.
Oui. La Belgique, Nathalie Clairin.
Ah, moi, j'ai adoré ce livre qui m'a fait sourire, il m'a fait rire, il m'a fort ému. Et d'ailleurs, j'y retournerai quand on retourne un peu chez un vieil ami. Et on vous suit comme sur des montagnes russes dans tous vos états de solitude, donc de la jouissance à faire ce qu'on veut quand on veut, à n'être délicieusement rien que soi, mais aussi à vivre parfois cruellement le manque de l'autre.
C'est vrai que vous n'avez pas envie des autres, Jean-Louis Fournier. Vous avez besoin des autres, c'est ce que vous expliquez. Ça fait un peu vieil égoïste, ça, Jean-Louis.
Ah oui, mais je prétends pas ne pas être un vieil égoïste, bien évidemment. Mais c'est sûr que j'ai besoin des autres, c'est évident. J'appelle souvent les gens au téléphone, pas pour demander de leurs nouvelles, c'est pour donner de mes nouvelles. Et quand ils commencent à me donner de leurs nouvelles, bah, j'aime pas que ce soit trop long.
Ça vous intéresse pas ?
Moins.
C'est pas vrai.
Non, mais c'est vrai. Vous voyez, quand on écrit, on a un ego qui est un peu surdimensionné. Et
notamment... Mais vous avez pas un ego surdimensionné, vous ?
Ah, si, quand même. Mais non, parce que je connais depuis longtemps. Dans mes bouquins, je parle de moi tout le temps.
Mais c'est vrai. Oui,
ça veut dire, j'ai l'impression que c'est intéressant ce que j'ai à dire.
C'est un peu de la provocation, Jean-Louis, chez vous.
Ouais, mais quand même. Puis c'est pour.
Vous l'avez payé d'ailleurs cette provocation.
C'est pour me rassurer aussi. C'est pour me dire que j'existe. Je vais avoir l'impression que oui, en fait. Non, je suis un égoïste. Faites-moi confiance,
d'accord.
Je vais vous le dire.
D'accord, ok, je vous l'accorde. La solitude, c'est douloureux lorsqu'on fait ses courses. Ou lorsque l'on va chez le caviste aussi.
Ah ben non, le problème du caviste, c'était d'acheter une demi-bouteille de vin. Et je me dis, parce qu'avant, avec ma femme, j'achetais une bouteille, et puis on s'amusait à faire des dégustations à l'aveugle. Elle gagnait toujours, d'ailleurs, parce qu'elle était beaucoup plus fine que moi. Et alors là, je me suis dit, est-ce que je prends une demi-bouteille, ou bien une... Et puis j'en ai pris une. Plus de vin, moins de chagrin.
Et puis vous pouvez la garder, vous savez, il y a des systèmes maintenant.
Oui, non. Oui.
Ce qui est compliqué, c'est face aux autres, quand on est dans un supermarché, face aux autres. C'est vrai que c'est un peu dur, ça.
Mais de toute façon, les autres, c'est compliqué aussi, mais c'est bien. Parce que si vous voulez, quand on est tout seul, on a tendance à radoter. Et on a tendance à penser qu'on a raison. Et quand on commence à penser qu'on a toujours raison, là, on commence vraiment à avoir tort. Et c'est bien d'avoir la contradiction. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir les autres. Et ça vous permet de ce que je mets à un moment, ce sont des meules pour polir nos idées, les gens. Parce que quand on a des idées, elles sont fumeuses, elles sont pas incarnées dans des mots. Donc on peut penser à des choses, on pense que c'est génial. Mais tout d'un coup, quand on passe la réalité et qu'on doit parler aux gens, tout d'un coup, on se dit, tiens, c'était pas génial.
Ah ouais. Pour Pierre Desproges, vous aviez plus que de l'affection. Vous aviez de l'admiration, dites-vous.
Énormément. Oui.
Mais l'affection entraîne presque toujours l'admiration, Jean-Louis. Quand on aime intensément, on admire. C'est un peu ça, la folie de l'amour. La vénération couplée d'admiration, non ? Oula.
L'admiration, oui, je sais pas. Pensez à mon chat, par exemple, j'admire beaucoup.
Mais quel rapport, le chat ?
Si, parce que j'adore mon chat, là, je viens de la quitter, là, et je pense à elle actuellement.
Ah ouais ?
Elle est très belle, mais est-ce que j'ai de l'admiration pour elle ? Oui, j'ai de l'admiration parce qu'elle est belle. Et tout ce qui est beau, pour moi, tout à l'heure, ça m'amusait d'ailleurs, parce que je pense que c'est une tuile d'être moche, quand même. Je trouve qu'être beau, c'est une chance fabuleuse.
Vous avez été beau, vous ? Jeune, puisque vous dites que maintenant
vous êtes toujours moche. Je peux toujours dire que j'étais superbe.
Bah oui.
C'est ce que je dis souvent. Je dis, tu m'aurais vu il y a 30 ans, j'étais génial. Bah, personne ne le saura jamais. J'étais super, franchement.
C'est vrai ?
Ouais. Hein. Non, pas du tout.
Mais si, pourquoi pas ?
J'étais inquiet en plus. J'étais inquiet, non.
Vous écrivez, qu'est-ce que je crains le plus ? Être seul, être abandonné ou être oublié ?
Ah bah oublié.
Être oublié, peut-être le pire. Oui, plus qu'abandonné, dites-moi.
Bah, abandonné, on peut toujours penser qu'on vous regrette. Et qu'on se dit, tiens, j'aurais pas dû l'abandonner. Mais oublier, ça veut dire qu'on n'existe plus.
Eh oui.
Qu'on n'existe plus. Et ça, c'est quand même un truc...
Vous avez été oublié, vous ?
Bah, oui, une fois, dans un magasin.
Oui, quand vous étiez petit.
Comme ça, oui. Puis je trouve que c'est terrible, parce que quelquefois, on parle de quelqu'un, et on dit, tiens, machin, tu l'as revu il y a longtemps, mais il y a un mec qui dit, oh, je me demande s'il n'est pas mort. Et puis, il y a quelqu'un, t'es sûr qu'il est mort? Je me dis, un jour, on va se poser cette question sur moi. On va dire, Fournier, on n'a plus de nouvelles. Il est mort, tu crois? Bah, je sais pas. On le saurait.
On le saurait, oui.
C'est pas sûr. C'est-à-dire, on n'est pas inoubliable.
Ouais, mais oublié dans un magasin, on vous a retrouvé.
Oui, bien sûr.
Si on vous avait abandonné, On vous aurait peut-être pas
récupéré. Ah non,
j'ai pas
été abandonné comme le petit poussé.
Ben non, ben voilà.
Non, non, pas du tout. Non. J'avais des parents. Non.
Bon, merci beaucoup Jean-Louis Fournier. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ce sera sur quel thème le prochain livre ?
Je vais parler des animaux.
Ah oui.
Que j'adore.
Donc ça va être joyeux.
J'adore. Quoi ?
Ça va être joyeux.
Joyeux et triste.
Ah ok, d'accord.
Je vais dire merci aux animaux parce qu'on leur doit plein de choses et souvent on n'y pense pas à ça.
D'accord.
On dit jamais. Quand j'étais gosse, on m'engueulait parce que quand je disais merci, on disait toujours merci mon chien, comme si c'était absurde de dire merci mon chien. Moi je vais dire merci aux animaux.
Et à votre chat.
Ah bah oui, ouais. Bien sûr.
Merci Jean-Louis. Je ne suis pas seul à être seul est paru chez Jean-Claude Lattès. À bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une jeune artiste francophone. Voici l'artiste française Mélodie Loret.
8h du matin, le jour lointain, la rumeur des transports en commun, la journée sur le départ quotidien, le métro et ses couloirs de hall de gare, il est sûrement minuit quelque part. D'ici c'est encore le soir, sous la lumière des néons, le nom des bars, nos voix commençant l'histoire par la fin, la traînée de nos parfums sur les trottoirs, il est sûrement minuit quelque part. Trace de la nuit noire, des dernières cigarettes qui se fixent dans la tête. Plus aucune trace de la nuit noire. On balaye les canettes vides et les rires de la fête. Plus aucune trace de la nuit noire. Descendant ma rue comme d'une autre planète. De fer se relève, les oiseaux se désaltèrent au citerne, la ville n'a aucun horaire qui nous concerne, quand viennent les 8h, 8h et quart, il est encore minuit quelque part. Brûlons sur les qu'on décoche dans le noir, un peu de monnaie dans une poche par hasard, sur le coup des 8h, 8h et quart, il est encore minuit quelque part.
C'était Mélodie Loret avec Minuit quelque part, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Merci beaucoup Gérard de Toto.
Merci
François Bigodeau, Cécile Guillard, Beata Omoubié-Imérès et Jean-Louis Fournier. À bientôt. À la réalisation, Frédéric Milano avec Juliette Delperrou. À la prog musicale, Thierry Dupin. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France. Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse. René Mikils avec Valérie Plut en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, Jean-Christophe Ruffin, Roland Buty et le nouvel album d'Astérix avec Ferry et Conrad. Bonne semaine à vous, bon week-end.